Alors ici, on est dans une région vachement intéressante parce que au niveau géologie, on a une richesse absolument incroyable. C'est-à-dire que si on parlait d'un vignoble, on dirait qu'il y a plein de petits terroirs. Et là, il y a plein de petits terroirs qui se partagent entre le côté Viaur, à l'est, et le côté Aveyron. Alors je soupçonne qu'il y avait des énormes carrières sur Uperu, parce que sur Uperu, en plus de la lauzre sur les toits, il y a de la pierre taillée dans le vieux Uperu. Donc pour avoir une pierre qui se taille, c'est encore plus compliqué que pour avoir une lauzre. L'ardoise est arrivée plus tard. Les belles carrières d'ardoise, elles sont assez éloignées de nous. C'est d'un côté les carrières de Dourgne, donc là on part sur la montagne noire, au soleil couchant, et de l'autre les carrières de Corrèze. Et sinon pour la Lauze, je pense que tout a disparu. En aussi peu de temps, on se demande comment c'est possible. Il devait y avoir des micro-carrières tous les 15-20 km. Mais toujours pareil, il fallait pas beaucoup de matière en fait. Parce qu'avec une bonne carrière, si tu as 10 mètres cubes de pierre, tu sors 1000 mètres carrés, pardon, 10 mètres cubes de pierre, 1000 mètres carrés de couverture à lauzes. 1000 mètres carrés, la maison moyenne ici, comme celle qu'on voit à notre droite, elle fait à peu près 150-180 mètres carrés. Il faut savoir que dans la carrière, il y a une partie de la pierre qui partait à la lauzre, qui était fendue, et tout le reste servait à la maçonnerie. Et du fait, pour les maçonneries, elles étaient litées dans le bon sens, puisque toute pierre, fût-elle lauzre ou fût-elle pierre amortisse, pierre à bâtir, normalement est reposée dans le sens de son lit. Le lit, pour la lauzre, on est dans du schiste, qui est une roche détritique métamorphique. Donc détritique, cette roche peut venir depuis la nuit des temps et avoir été avant cette villa une autre roche. Elle est usée par l'érosion, charriée par l'eau, jusque finalement au moment où elle se retrouve sur un fond plat. Et donc les lits vont être à plat, un peu comme les feuilles d'un bottin ou d'un annuaire, posées à plat. Et le carrier qui va là-dedans, avec des coins, sépare ces couches les unes les autres, met la pierre à la verticale et la resépare en autant de pages. Et donc, tout ça était une matière précieuse.
Et on a choisi la lauzre parce qu'on avait des gisements ici ou parce que ça correspondait au climat, sachant qu'on est un peu à la montagne?
Les deux. On est dans une région naturellement riche en matériaux de couverture. Le végétal, le minéral et la terre. Nous, la région où on est, ici, le pigeonnier de la Bastide-l'Évêque, là, on était en zone lauze. Donc, elle n'était pas loin, les gens couvraient la lauze. On peut se déplacer de quelques kilomètres vers Villefranche, et le sous-sol va changer, forcément. Et là, on va avoir plus d'argile. Donc les gens étaient beaucoup plus modernes que nous maintenant et ils respectaient davantage leur environnement. Donc ils allaient construire avec ce qu'ils avaient au plus près, au plus facile à exploiter. Ça, cette lauze, elle vient de vers Baraqueville et on l'appelle la Sermure.
Comment on le sait?
Comment?
Comment tu le sais qu'elle vient de Baraqueville?
Elle est... Voilà celle-là, elle est très grasse. Celle-là, elle est très vive, très sèche. On l'entend au son du marteau. Et oui, nous avons atterri dans le 21e siècle. Et ce pigeonnier, grosso modo, lui, il est du 1820, 30, 40. Ce qui fait dire ça, c'est les chevilles. On va aller dessous. Le voir, c'est les chevilles en bois. Et nous, en ce qui nous intéresse, il y a une lauze qui est partie là, de ce côté.
Il y a un trou là.
Voilà, il y a un trou là et il y en a deux à repousser de ce côté. Ils sont en train de se faire la malle. Ils sont en train de descendre d'abord. Alors quand les gens ils nous escoumettent, nous commandent de venir faire le travail, ils nous précisent sous la balade ou pas. De l'autre côté, elle est déballée, elle est descendue, puisqu'elle n'y est plus.
Il faut la remettre.
Voilà, et celle-là, sous pas la balade. Tu vois, elles y sont encore, il faut juste les repousser, les reclouer.
Ouais, donc à l'échelle, hein.
Ouais. Je mets pas trop de mon oxydant quand même.
Un peu,
d'accord. La nuit avec les petits toits, c'est qu'on a toujours des échelles trop longues. L'échelle bien calée, pas tombée. Alors là, il y en a une qui s'est cassée. Voilà, on écarte les lauzes pour pouvoir retrouver le trou de la pointe. Et là, en l'occurrence, c'est pas une pointe. C'est une cheville bois. Alors quand c'est comme ça, en général, j'essaie de refaire exactement la même lauze pour ne pas lever la cheville. Voilà, et je pense que j'ai la lauze qu'il faut. Et la cheville, elle est super bonne encore. Allez, je vais descendre pour aller tailler la lauze. Voilà, la saquette mise. Alors là, on va reproduire la lauze. Donc on va la dessiner. Là, je retourne le chanfrein. On la taille d'un côté et après, il y a toujours un petit biais sur les lauzes et ce petit biais permet de venir les coincer une dans l'autre et évite à la neige poudreuse de pouvoir passer facilement, aisément. Là, ça la retarde un peu. Voilà, donc on doit avoir à peu près la même chose. Et le trou est là. Tu vois, elle a attendu le dernier moment. Alors là, c'est typique. On voit bien maintenant qu'elle s'est craquée, l'ancienne. Elle est partie sur ce qu'on appelle un poil. C'est-à-dire qu'au niveau de la sédimentation géologique, il y a la boue qui s'est déposée, les sédiments, plaque par plaque, comme un annuaire finalement. Mais après, avec la tectonique des plaques, la tectonique de l'écorce terrestre, il y a eu d'autres mouvements qui sont venus compresser ou décompresser. Et finalement, on l'entend, ce son un peu vibrant comme une assiette creuse. Et il y a de fortes chances qu'ici, elle ne soit pas rouillée, que là, cette partie soit rouillée. On va aller le voir. Et tu vois, en haut, elle n'est pas trop rouillée. Par contre, en bas, elle est complètement rouillée. Ça veut dire que elle était mûre, quoi. Il faut la changer. Alors là, on va la percer, la nouvelle. On va aller la mettre en place. Elle doit reboucher le trou pile. Nous voilà parti. Donc, je pense que ce pigeonnier, il est tellement bien appareillé. Il est tellement bien fait. Il est tellement juste partout, la taille des lauzes et tout. Que c'est un ancien qui s'est fait un dernier plaisir dans sa vie ou qui s'est fait le plaisir de sa vie. Alors il devait posséder la parcelle de terrain et depuis il est là, donc le monde a évolué, il y a la route qui en a bouffé la moitié, le champ de maïs il arrive contre, le boulevard des Allongés s'en rapproche de plus en plus parce qu'il a le cimetière a un peu changé de place, je crois sur les dernières années il a un peu agrandi. Enfin, voilà.
Alors, et il s'est fait plaisir, pourquoi? Parce que c'est un travail particulier?
C'est le genre d'ouvrage qui est parfait, parce que le gars qui a fait ça, ou les gars, n'ont pas cherché à faire la cathédrale ou une reconstitution d'un ouvrage mirobolant. Non, il s'est contenté de faire quelque chose à sa portée. C'est pour ça que je pense, ça c'est moi qui le pense, hein, parce qu'il y a plusieurs versions là-dessus. C'est ce gars, il se l'est tout monté tout seul, des cailloux, des murs. Il s'est fait la fondation sans doute. Il a sans doute tout amené ici à la brouette. Et l'époque où il l'a fait, donc, je rejoins un peu ce qu'on disait au début, tout le versant sud est encore à la cheville bois, de châtaigniers aussi. Ce qui voulait dire que quand le couvreur posait la lauze, il était sur son toit, il avait la lauze à la main, il la posait sur l'endroit qu'il voulait couvrir. Il regardait où c'est qu'il allait faire le trou. Puis il perçait sa lauze parce qu'il faisait le trou à une place en fonction de là où allait être la lauze de dessus. Donc il faisait son trou à la lauze au marteau, on va le faire tout à l'heure. Et après il avait son vilebrequin et oui, 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 il faisait son trou au vilebrequin. Et il sortait sa cheville en bois de sa saquette qui poussait avec le marteau. Donc on était un peu l'inverse de dans le monde du vivant. L'arbre dans le monde des vivants, il est sur le sol, il est sur le minéral, et là c'est l'inverse, c'est le minéral qui est sur lui. Alors donc quand on va cueillir un arbre pour le mettre sur un toit, on dit qu'on va bon, d'abord le cueillir, on ne parle pas d'abattre, c'est un terme bon pour les coupeurs de bois. On peut dire les bûcherons, et je pense qu'il en reste quelques-uns encore de vrai. Et alors on couche le bois, et puis après avec le charpentier, on dit qu'on relève le bois. Donc on remet l'arbre debout. Et après les assemblages de charpente, on dit qu'on remet des branches. Et en fait, quand on met les lauzes, on dit qu'on lui remet les feuilles. Et comme ça, on est un peu moins coupable de couper un arbre et d'arracher des cailloux partout pour faire des toitures. Et en même temps, c'est pour ça que ces toitures sont belles.
C'est des mots qui viennent de l'occitan que tu as traduit ou pas ou
c'est, Oui, c'est, tu vois, de l'occitan, un couvreur, on nous appelle les claupeido. Claupeido, clau, contient, peido, pierre. Claupeido, contient sous la pierre. Et nous, en général, les couvreurs, nous sommes dans la région, ils nous appellent souvent les claupeido parce qu'on sort assez souvent quand il fait chaud, puisque c'est la période de l'année où on peut travailler le plus, puisqu'on a de longues journées. Voilà, alors là, quand on la remet, on s'aperçoit que celle d'en haut à gauche ne porte pas bien. Donc je vais la marquer avec la pointe du marteau. Je fais un petit trait. Je vais la ressortir et désépaissir juste la partie qui a été marquée. Donc là, je travaille avec la pointe du marteau. J'essaie de ne pas me la mettre à la cuisse. Et là, en fait, je fais l'inverse. Je désédimente. La sédimentation, elle a posé les morceaux les uns sur les autres. Et moi, je remonte dans le temps. Et comme vous pouvez le voir, les morceaux partent en feuillet. Voilà. Tac, on réécarte son emplacement, celui-là aussi. On la pose sur sa cheville, elle est accrochée. On remet l'autre à sa place. Et voilà, c'est pétassé. Il ne reste plus qu'à descendre et aller mettre celle qui manque de l'autre côté. Il reste assez de vestiges. Maintenant, la difficulté, c'est de convaincre les pouvoirs publics de laisser des gens accéder à des micro-carrières. Un carré dans le sol de 40 mètres par 40 mètres. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout coûte très cher. Une heure d'ouvrier coûte à peu près 35 euros hors taxe. Donc finalement, faire passer quelqu'un pour entretenir un toit, les gens se lassent. C'est toujours très émouvant comme événement, bien qu'il soit anodin et fait des milliers de fois. Mais c'est toujours le même bonheur que de remettre dans nos temps et notre vie d'aujourd'hui un petit morceau de quelque chose qui a été fait par quelqu'un il y a plusieurs siècles. Ça nous arrive souvent sur ce type de bâtiment, c'est pour ça qu'on n'arrive jamais de bonne heure à la maison, de voir qu'il manque une lauze et de la remettre en ne sachant pas à qui appartient le toit. Et le charpentier, s'il voyait qu'il manquait quelque chose, il s'en occupait. Le couvreur, le maçon faisait pareil. Il n'attendait pas forcément d'être commandité et n'attendait pas une rémunération sonnante et trébuchante. Ça pouvait justement être le simple fait de faire perdurer l'ouvrage du père ou de l'aïeul et de le faire passer à la génération du fils ou du petit-fils. Voilà, j'ai fini mon ouvrage.